Les cours du Collège de France, Nathalie Bajos, chère Santé publique.
Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi pour ce petit retard, j'ai un petit problème de transport. Merci de venir pour cette deuxième séance après l'intervention du 3 avril. Et comme je l'avais dit, donc je ne vais pas le répéter en postulant que la plupart des gens qui sont là aujourd'hui étaient là la semaine d'avant, j'espère. Sinon, ou en tout cas ont pu, j'espère, écouter ou entendre la problématique générale que j'ai présentée le 3 avril. En tout cas, aujourd'hui, donc, on va encore avoir une séance sur le Covid-19. Hein. La dernière fois, on a vu les questions d'inégalité dans les enjeux d'exposition au risque de contracter le virus du Covid-19. Et aujourd'hui, on va passer sur un autre domaine qui est celui, en fait, vous allez le voir, à chaque fois, j'essaye de prendre une pathologie pour éclairer un des enjeux de la production des inégalités de santé. Et donc, aujourd'hui, on va traiter de la question de la vaccination. Qui est un enjeu majeur de santé publique à double titre. D'abord, ça a permis, on va revenir dessus, de réduire de manière drastique le nombre de personnes contaminées et le nombre de décès, et ce, dans tous les pays où les vaccins étaient accessibles. Et puis, c'est aussi un enjeu important d'un point de vue de santé publique, parce que vous allez le voir, les réticences à la vaccination et les obstacles sociaux au recours à la vaccination sont de nature différente des obstacles qu'on pouvait observer pour ce qui concernait les autres moyens de prévention dont on a parlé la semaine dernière et sur lesquels je reviendrai rapidement. Donc, je vais utiliser l'exemple du Covid pour traiter d'une question beaucoup plus large, qui est la question des discriminations et de la santé. Et puis ensuite, dans un second temps, je suis très heureuse d'accueillir Jérémy Ward, qui est un de mes collègues sociologues à l'INSERM et qui est un des plus grands spécialistes des questions de vaccination et qui nous proposera une perspective plus large autour des questions de vaccination et de la spécificité de la vaccination contre le Covid-19. Voilà. Et Jérémy dirige un grand programme de recherche sur le sujet dont il vous parlera dans un instant. Enfin, quand j'aurai fini de parler, c'est-à-dire dans une heure, si tout se passe bien. Alors, le plan de la séance d'aujourd'hui, donc je vais faire une petite introduction rapide et puis vous poser un peu le cadre problématique, c'est-à-dire en gros cadre problématique pour dire les grandes hypothèses théoriques qu'on pose pour pouvoir étudier ce recours à la vaccination. Et puis je traiterai de deux enjeux particuliers. D'abord, vous présenter un peu le contexte en France des pratiques de réticence et de pratiques vaccinales dans le domaine du Covid-19 selon un certain nombre de caractéristiques sociales. Et ces caractéristiques sociales étant les mêmes que celles des personnes qui sont le plus souvent confrontées à des discriminations, j'interrogerai les liens entre discrimination et recours à la vaccination. Voilà. Alors, le schéma est le même que la semaine dernière, il sera le même que la semaine suivante, etc., etc. On va le décliner un peu. Donc avant, je ne sais pas si vous voyez, voilà, on a traité de la question des conditions de vie et de l'exposition au virus. Et je vous avais parlé aussi des quelques données essentielles en matière de prévention pour le port du masque, l'utilisation du gel et les distances géographiques de, entre guillemets, sécurité. Donc aujourd'hui, on va se centrer sur la question du vaccin. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur différentes sources. D'abord, une grande enquête EPICOV, je ne sais plus si j'en avais parlé la dernière fois, EPICOV pour épidémiologie et conditions de vie. C'est une enquête qui a été réalisée auprès de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans l'urgence, hein, au moment de tout début de la pandémie, à l'initiative de l'INSERM. Et je vais m'appuyer aussi sur quelques résultats de l'enquête TRACOV, qui est une enquête de la DARES, qui a été menée de janvier à mars 2021 sur l'évolution perçue des conditions de travail juste avant la pandémie, avant et après, par rapport à juste avant la pandémie. La phrase n'est pas très heureuse. Et là, c'est un échantillon aléatoire qui porte sur 15 423 personnes. J'insiste toujours sur les échantillons aléatoires sans faire de leçons de méthodologie d'enquête. En gros, il y a d'un côté les enquêtes scientifiques, je parle des enquêtes quantitatives, là, hein, qui s'appuient sur des échantillons aléatoires. Ça veut dire que n'importe quelle personne a la même probabilité de répondre à l'enquête versus toutes les enquêtes par sondage, quota, etc., où on répond qui veut et qui sont redressées ensuite, mais qui n'ont pas du tout la même fiabilité statistique que les enquêtes sur échantillons aléatoires. Voilà. Et je vais m'appuyer aussi sur les résultats de recherche qualitative, en particulier celle de Raphaël Chalier, qui a fait dans le cadre du projet sur lequel je travaille, EPICOV, et Jendy, qui a fait une série d'entretiens approfondie auprès de personnes qui ne souhaitaient pas se faire vacciner pour essayer de comprendre les processus qui les conduisaient à ne pas s'inscrire dans une démarche de prévention. Alors, je ne vais pas vous abreuver de données méthodologiques, mais juste pour dire que cette enquête EPICOV, donc, pour étudier la dynamique de l'épidémie, mais aussi les conditions de vie sur le risque de contamination, l'effet des conditions de vie sur le risque de contamination, ce qu'on a vu la semaine dernière, et l'impact social de la crise sanitaire. Donc, 135 000 personnes ont été interrogées en mai 2020, et puis vous voyez, on les a suivies en novembre 2020, en juin 2021, en octobre 2022. Et c'est particulièrement important de pouvoir suivre les gens, parce que là, vous allez le voir, on peut étudier qui était réticent à l'idée même de se faire vacciner quand les vaccins n'étaient pas encore accessibles, et ensuite, qui s'est fait effectivement vacciner et comment ça évolue au fil du temps. Voilà, donc là, c'est ce que je vous présente là aujourd'hui, c'est les analyses qui portent sur les personnes de 18 ans et plus au 1er janvier 2002 et qui résident dans des ménages ordinaires, c'est-à-dire qu'ils ne résident pas dans des institutions, pas dans les EHPAD, et ces résultats portent sur la France hexagonale. Donc je disais, il y a deux dimensions importantes pour comprendre ces données et qui vont guider les analyses et les hypothèses plus précises qu'on a faites. La première, c'est comment les individus construisent leur propre définition du risque. Et la deuxième, qui renvoie à la question de la discrimination, du rapport à la discrimination, des rapports complexes entre discrimination et santé. Alors le concept de risque, je voudrais revenir un petit peu dessus dans cette séance parce que vous allez voir qu'il est extrêmement important. En fait, c'est pour considérer le concept de risque. C'est un concept qui est central en santé publique. Tout le monde l'utilise, il est extrêmement polysémique. Des épidémiologistes aux psychosociologues, aux sociologues, aux démographes, tout le monde utilise ce concept pour décrire l'état de santé d'une population ou identifier les facteurs de risque et surtout d'analyser la façon dont les individus s'adaptent à un risque donné et dont la société y répond, ou bien de s'interroger sur les logiques, ce qu'on va faire ici, sociopolitiques, qui président à ce que Robert Castel appelait la définition sociale du risque. Alors, cette polysémie, en fait, elle dépasse le cadre des frontières disciplinaires, comme on va le voir. Et moi, je vous propose de distinguer, je le reprends des travaux passés, je propose de distinguer deux types d'approches pour comprendre le décalage entre un risque donné, entre les pratiques et le discours public. Et c'est une distinction qui a été proposée initialement par Marc Auger et Claudine Herzlich en 1984, entre deux paradigmes qui sont fondateurs pour les sciences sociales. D'une part, une approche que je vais qualifier d'objectiviste, qui considère la définition biologique et médicale du risque comme un postulat pour l'analyse, c'est-à-dire qu'on prend cette définition qui est donnée par le discours médical étant une définition par rapport à laquelle les gens vont se positionner, et d'autre part une approche constructiviste qui, elle, et ça a été proposé par beaucoup d'auteurs, dont notamment Marcel Calvez et Marie Douglas, qui appréhendent le risque comme une construction sociale qui résulte de la confrontation des intérêts, des savoirs et des pratiques entre différents acteurs sociaux. Donc soit on part de la définition, pour être un peu schématique, qui est donnée institutionnellement et médicalement du risque, et on regarde comment les personnes se positionnent par rapport à cette définition, soit on cherche à comprendre comment les individus élaborent leur propre définition du risque, selon leur position, leurs intérêts, etc., etc. Et du coup, comment leur propre définition cadre ou pas avec la définition institutionnelle du risque. Et vous allez voir en fait que ces deux approches, elles sont pas antagonistes l'une et l'autre. On a besoin d'une approche objectiviste pour essayer de faire une cartographie sociale du risque dans une population, mais on a besoin d'une approche constructiviste pour comprendre comment les individus construisent leur propre définition du risque. Et c'est pas sans importance ce double regard, notamment pour comprendre ce qui se joue dans l'adoption ou non de moyens de prévention. Alors, je vais pas développer beaucoup, mais en tout cas, ce qui est un point qui est quand même très important à souligner, c'est que l'idée de la... et qui est vraiment problématique au sens commun du terme, c'est de... quand on considère l'approche objectiviste, donc on regarde le risque et on essaye de voir qui s'expose ou ne prend pas les bons moyens de prévention pour se protéger du risque. Mais derrière ça, il y a une hypothèse implicite qui est très forte, et qu'on remet en cause d'un point de vue sociologique, c'est de considérer que finalement la logique sanitaire est la logique la plus importante et la plus structurante pour rendre compte des attitudes et des pratiques des individus. Il y a un risque qui est donné. Pourquoi on s'écarte de ce risque et on va essayer d'étudier toutes les caractéristiques qui permettent de savoir pourquoi les gens n'adoptent pas cette définition institutionnelle du risque. Et on les positionne dans ce type de démarche, dans un raisonnement où la logique sanitaire est la plus importante pour structurer les pratiques et les attitudes des individus. Et beaucoup de travaux en sciences sociales, je pense aux travaux pionniers dont j'ai déjà parlé, les pionnières dont une est ici présente, de la sociologie de la santé en France, Claudine Herzlis et Janine Pierret. Je pense aussi à tous les travaux de l'équipe de Pierre Ayache, tous les premiers livres qui ont été faits sur les inégalités sociales de santé, pour celles et ceux que ça intéresse, pour aller plus loin. Mais en tout cas, l'idée que la préservation de sa santé, la logique sanitaire est première pour rendre compte des pratiques et des attitudes des individus, interroge. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas lié à la vaccination ni au Covid, mais un exemple qui est lié à la contraception. Dans une étude qu'on a faite il y a quelques années pour comprendre les échecs de contraception, déjà le terme échec de contraception à prendre avec des guillemets, pourquoi les jeunes, en l'occurrence c'était les jeunes femmes, se retrouvaient dans des situations d'avoir recours à l'avortement parce qu'il y avait eu une grossesse non prévue, parce que, etc., etc. Et je me souviens très bien d'une jeune femme que j'avais rencontrée qui prenait la pilule, qui était parfaitement au courant des enjeux de risque liés au cycle, etc. Donc elle avait une très bonne maîtrise de toutes ces données-là. Et pourtant, quand je la rencontre, donc elle était enceinte, donc elle a eu recours à l'IVG, et elle m'explique que prendre la pilule, elle ne voulait pas prendre la pilule, elle aurait souhaité prendre un stérilet. Le gynécologue n'a pas voulu lui prescrire de stérilet parce que, pensant à tort que le stérilet devait être uniquement une méthode réservée aux femmes qui avaient déjà eu le nombre d'enfants souhaités pour accomplir leurs devoirs reproductifs. On en reparlera d'ailleurs dans une autre séance. Mais en tout cas, le point important, c'est que cette jeune femme donc n'a pas pu prendre un stérilet. Le gynécologue lui a dit « vous devez prendre la pilule ». C'était très injonctif comme discours. Elle prend la pilule, sauf qu'elle vivait dans un milieu social où elle n'était pas censée avoir d'activité sexuelle parce que c'était les études avant tout, et donc la sexualité était une zone de non-dit dans cette famille. Et donc, comme elle avait peur de se faire repérer à travers sa plaquette de pilule, elle ne pouvait pas la prendre chez elle, donc elle la laissait chez sa copine dans l'immeuble d'à côté. Et en fait, une fois la copine était partie, je ne sais plus pour quelle raison, mais pendant 2 jours, elle n'a pas pu prendre sa pilule et elle est tombée enceinte. Voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer que on ne peut pas comprendre la grossesse non prévue de cette jeune femme par des questions de non-compréhension du risque, etc., etc. Mais il y a un contexte social qui fait que, bien qu'étant parfaitement informée, elle s'est retrouvée enceinte parce que le contexte social l'empêchait d'utiliser un moyen de contraception qui signalait une activité sexuelle dans un milieu où celle-ci était totalement prohibée, puisque l'enjeu était pas de relation sexuelle avant le mariage. Sans préciser le plus de détails dans le contexte social, c'est des positions qu'on retrouve dans différents espaces et qui sont liées en particulier à des références religieuses dans différentes religions, catholiques, musulmanes ou autres, où ce type de discours prévaut dans des milieux qui sont fortement, qui ont une religiosité importante. Un autre exemple pour vraiment vous faire comprendre cet enjeu que je trouve essentiel pour toute la santé publique, c'est un autre exemple qui vient d'une recherche sur le sida au tout début du sida. C'était à partir d'une série d'entretiens aussi qu'on avait fait. Une jeune femme qui avait des rapports payés pour vivre, c'était son métier, c'est une travailleuse du sexe, et elle était parfaitement au courant qu'il fallait utiliser des préservatifs pour se protéger, sauf que En ayant ça parfaitement en tête, elle demandait à tous les clients de mettre un préservatif, mais il se trouvait un certain nombre de clients qui ne voulaient pas mettre de préservatif parce qu'ils voulaient avoir plus de plaisir, de contact direct avec la peau, etc., etc. Donc elle refusait un premier client sans préservatif, elle en refusait un deuxième, elle en refusait un troisième, et je me souviendrai toujours qu'à un moment elle me dit, mais à partir du moment où, il était autour de minuit, quelque chose comme ça, elle me dit, j'étais obligée d'accepter un rapport sexuel sans préservatif parce que J'ai deux enfants à nourrir, j'ai pas, etc., etc. Donc vous voyez que ses conditions de vie étaient telles qu'elle n'était pas en position de négocier suffisamment forte pour que le client accepte le rapport sexuel avec préservatif. Donc elle s'est sciemment exposée à un risque de contamination parce que il fallait bien qu'elle récupère de l'argent pour assurer les frais inhérents à une famille, les enfants, le loyer, etc., etc. Voilà. Ces deux exemples qui concernent tous les deux les questions de sexualité. Il y aura deux séances consacrées à la sexualité plus tard, mais c'est juste pour vous montrer que finalement, voilà, on peut pas raisonner uniquement par rapport à une connaissance du risque et comment les gens s'en écartent ou pas. Je reviens à la question. Bon, c'était pas grave, on va rester comme ça. Hein. Je reviens à la question de la discrimination maintenant. La discrimination que je voudrais appréhender, et vous allez le voir, en tant que expérience, le fait d'avoir vécu une discrimination, c'est une manifestation d'une certaine forme d'exclusion sociale. Et l'hypothèse, c'est que se sentir exclu socialement est un véritable obstacle. Et c'est pas psychologique, c'est vraiment sociologique, un véritable obstacle pour s'inscrire dans une démarche préventive. Et vous allez le voir, encore plus dans le cas de la vaccination contre le Covid-19, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les campagnes de prévention en appelaient à un sens citoyen, se protéger et protéger les autres. Et finalement, une des hypothèses qu'on a posées très vite, c'est que le non-recours à la vaccination, c'était d'autant plus difficile qu'on se sentait exclu de la société dans laquelle on vivait, et que l'idée de se protéger soi-même et d'avoir une attitude altruiste en protégeant les autres était en dissonance très forte avec les expériences qu'on pouvait vivre. Là encore, je crois que je l'avais dit la semaine dernière, là encore, c'est des connaissances acquises dans le cadre de l'épidémie de la lutte contre le sida par les sciences sociales qui ont été quand même, mais ça ferait l'objet d'une autre séance. Pourquoi on ne s'est pas appuyé sur toutes les connaissances qu'on avait acquises dans le domaine de la lutte contre le sida pour les mobiliser, les convoquer pour réfléchir à la prévention contre le Covid-19? Ça reste, il y a beaucoup d'hypothèses, mais en tout cas c'est un fait, c'est qu'on a mis un temps, on a perdu un temps précieux pour mobiliser ces connaissances. Et cette hypothèse, en fait, elle vient des travaux totalement précurseurs de Michael Pollack, qui avait montré au tout début de l'épidémie que finalement la discrimination et la stigmatisation à l'encontre des jeunes homosexuels étaient un frein à ce qu'ils puissent s'inscrire dans toute démarche préventive à partir du moment où ils se sentaient totalement rejetés par la société. Et en fait, pour dire les choses plus simplement, pour celles et ceux que ça intéresse, il faut lire les travaux de Michael Pollack, Sociologie d'une épidémie aux éditions Métayer en 1980, enfin bon, vous trouverez. L'homophobie est un facteur de risque de contamination par le VIH. Voilà, pour dire les choses autrement, c'est un enjeu majeur. Et ça reste un enjeu extrêmement important aujourd'hui. Et on peut dire, par analogie, que les discriminations à l'encontre d'un certain nombre de groupes sociaux, c'est des facteurs de risque, pour reprendre la terminologie épidémiologique, d'un recours à la vaccination. Voilà. Et je vais essayer maintenant de vous le montrer. Alors, les discriminations à l'encontre, les liens entre discrimination et santé, je vais vous reprendre les définitions, mais ce que je voulais préciser, c'est qu'en France, à la différence de la Grande-Bretagne ou des États-Unis, l'usage de la discrimination, du terme même de discrimination, ne remonte qu'au début des années 60, dans ces pays-là, pardon, et que le délit de discrimination est apparu tardivement et n'a été introduit en France dans le droit pénal qu'en 2001. Vous voyez donc le décalage entre des pays qui l'ont adopté dans les années 1960 et en France en 2001. Alors, comme catégorie juridique, la discrimination renvoie à des pratiques qui sont interdites par la loi, qui mentionnent, je crois que j'ai une diapo là-dessus. Donc, d'un point de vue juridique, il y a deux approches de la discrimination, la définition juridique et l'approche sociologique. Donc, d'un point de vue juridique, la discrimination, ça renvoie à des pratiques qui sont interdites par la loi, qui mentionnent, la loi française, 25 critères de discrimination et qui doivent concerner un domaine prévu par la loi, à savoir l'emploi, l'éducation, le logement, l'accès aux biens et services publics et privés, et par extension, toutes les questions de santé. Mais par exemple, une discrimination entre votre fils et votre fille, ce n'est pas une discrimination juridique. Si vous lui donnez plus à manger, ou voilà, ce ne sera pas qualifié d'une discrimination. Donc il faut que ça concerne un des critères prévus par la loi, dans un des domaines prévus par la loi. C'est aussi un concept d'analyse de la production des inégalités de santé en sciences sociales, enfin des inégalités en général, et c'est un concept qui invite, d'un point de vue sociologique, et là je reprends la définition de Laure Bérény et de Vincent Chappe, qui invite à resituer les différences de traitement fondées sur les critères prohibés par la loi comme, je les cite, des rouages de la production ou de la reproduction des rapports de pouvoir structurels qui engendrent des groupes majoritaires et des groupes minoritaires. Et on va revenir sur ce point ultérieurement, je regarde juste. Alors, les liens entre discrimination et santé. Les liens entre discrimination et santé peuvent intervenir à différents niveaux. Le premier, ça montre que, alors c'est pareil pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai toute une liste de références bibliographiques que vous pouvez consulter, notamment un numéro récent de la revue Émulation qui a été dirigé par Louis Braveman et Aurore Loretti sur les discriminations dans le domaine de la santé. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que ça peut se situer à plein d'enjeux différents, les discriminations et les liens entre discrimination et santé. Le premier, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que les personnes discriminées connaissent souvent des conditions de vie qui sont néfastes pour la santé. C'est les mêmes, par exemple, les personnes qui sont discriminées en fonction de leur position raciale sont souvent des personnes qui ont été reléguées du fait des politiques de logement et de ségrégation du milieu du travail, dans des emplois particuliers, dans des conditions de vie particulières. Vous avez qu'à regarder ce que Laure Pitié a présenté comme cartographie avec la ligne du RER la dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, n'importe qui n'habite pas n'importe où et n'importe qui ne vit pas dans n'importe quelles conditions. Donc en tout cas, ce sont des situations qui peuvent les exposer à contracter des différentes maladies plus facilement que d'autres personnes. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler une discrimination indirecte. C'est pas la discrimination qui est directement visée sur ces personnes, c'est que ça les place dans des situations où le risque est plus important. Ensuite, il y a un autre niveau de lien entre discrimination et santé, c'est tout ce qui concerne les difficultés d'accès aux soins pour des raisons financières, bien sûr, les personnes qui sont... Donc, la position financière sociale, c'est un des critères de discrimination. Donc, quand vous ne pouvez pas accéder au système de soins parce que vous avez l'AMU, parce que vous avez, vous pouvez être discriminé pour des raisons financières. Donc, du fait de l'offre de soins, il y a des études notamment du Défenseur des droits qui montrent que certains professionnels de santé refusent de prendre en charge des patients avec... J'ai vraiment un problème avec ce truc-là, hein. Pardon. Non, alors là, voilà, pardon. Donc, je disais certains professionnels de santé qui refusent de prendre en charge certains patients, et a été publié ce matin un nouveau rapport du Défenseur des droits sur les discriminations et l'accès à la santé qui vient de sortir et que j'ai parcouru très très rapidement, mais je vous invite à regarder pour celles et ceux que ça intéresse. Ensuite, il y a aussi l'enjeu dont j'avais parlé le 3 avril d'attitude et de pratique des professionnels de santé qui sont discriminatoires, en particulier selon les positions de genre et les positions raciales. C'est ce qu'on appelle en France le syndrome méditerranéen, et j'avais parlé aux États-Unis du syndrome de Hispanic Panic, hein. C'est-à-dire c'est des représentations, des préjugés sur les comportements et les attitudes de certaines personnes appartenant à certains groupes sociaux ou groupes racisés qui font que les médecins vont pas se comporter de la même manière, donc traitement inégalitaire selon un critère prévu par la loi contre les discriminations, donc on est vraiment complètement dans le champ. J'avais dit aussi, je viens de le dire, des discriminations très largement documentées, notamment encore une fois par le Défenseur des droits, en matière d'homophobie et de transphobie, donc des difficultés que des personnes qui ont une orientation homosexuelle ou qui sont trans, de pouvoir trouver des professionnels de santé qui se comportent de la même manière qu'ils se comporteraient avec des personnes non trans, non homo, non lesbiennes, etc., etc. Donc on est aussi dans le registre de la discrimination. Donc vous voyez là, ça touche les relations entre les professionnels de santé et les personnes concernées, et ça va même comme on l'a démontré pour l'infarctus du myocarde, et je reviendrai dessus dans une prochaine séance, des recommandations médicales, donc l'institution médicale qui produit des connaissances qui sont discriminatoires parce que, basées sur des biais de genre, elles conduisent à ne pas proposer les mêmes traitements aux femmes et aux hommes. Donc il y a des pertes de chance, et c'est une des clés de lecture, mais je ne vais pas spoiler la séance sur l'infarctus du myocarde a-t-il un genre, c'est une des clés de lecture pour comprendre pourquoi les femmes meurent plus souvent d'un infarctus du myocarde que les hommes, alors que statistiquement, elles sont moins souvent confrontées à cet événement. Alors, voilà. Et donc, l'hypothèse centrale, que ce sentiment d'exclusion sociale conduit à reléguer au second plan les démarches préventives. Les discriminations se nichent aussi au niveau des connaissances scientifiques, je viens de le dire, mais aussi au niveau des dispositifs médicaux, juridiques et sociaux. Et je pense en particulier, mais c'est un exemple parmi d'autres, à la fameuse aide médicale d'État dont on a beaucoup parlé, dont on parle encore et dont on va encore parler, qui introduit par les critères de plus en plus restrictif de pouvoir bénéficier de cette allocation, une discrimination par rapport à des gens qui ne sont pas dans ces situations irrégulières. Donc c'est un lien, ce que je voulais signaler par là, c'est que les questions de discrimination et santé, c'est un vaste champ qui reste d'ailleurs extrêmement peu exploré du point de vue de la recherche en santé publique, et que le seul domaine, quand on fait une revue de la littérature internationale, où c'est très étudié, c'est uniquement sur les liens entre discrimination et accès aux soins. Ça, c'est vraiment étudié. Toutes les autres étapes sont beaucoup moins, voire pas du tout étudiées. Et les liens entre discrimination et accès aux soins, dans la littérature internationale, sont étudiés, et même dans le cadre des populations racisées. Ça porte aux États-Unis sur les populations noires, sur les populations hispanophones, etc. En Grande-Bretagne, ça porte aussi sur les populations, les minorités racisées, mais c'est très peu étudié d'une manière générale. En France, on a quand même une série d'études qualitatives de plus en plus importantes, et je pense en particulier aux travaux, mais pas uniquement, de Priscille Touraille et de... j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. Enfin, il y a plusieurs travaux qui portent dessus, je reviendrai tout à l'heure, mais qui restent aussi très, très centrés sur les questions d'accès aux soins. Alors, on va venir maintenant à des données un peu plus concrètes. Alors, la vaccination, un repère très rapide de la chronologie de la campagne vaccinale en France. Donc, je vous rappelle que le 8 novembre 2020, Pfizer annonce qu'ils ont mis au point un vaccin contre le Covid. Le 21 décembre 2020, Pfizer reçoit le feu vert de l'Union européenne. Début de la campagne vaccinale fin 2020 dans les EHPAD. Tout début 2021 pour les professionnels de santé, les personnels soignants, pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans. Et puis ensuite, 18 janvier 2021 pour les plus de 75 ans. Après, les personnes de plus de 55 ans. Et après, en mai 2021, les personnes de plus de 18 ans. Retenez pas tous ces... Enfin, voilà, c'est juste pour avoir dans l'idée que par manque de doses, la vaccination a été progressivement, le calendrier vaccinal a ouvert de plus en plus l'accès à cette pratique. Et vous allez voir que ce calendrier vaccinal ne coïncide pas tout à fait avec les pratiques. Là, ce que vous avez sur cette diapositive, c'est donc... Au moment où le vaccin a été annoncé, donc on sait qu'il va y avoir un vaccin, et on interrogeait les gens, il n'était pas disponible, hein, on interrogeait les gens pour savoir s'ils avaient l'intention de se faire vacciner ou pas. Et là, vous avez les personnes qui avaient dit d'emblée, au moment où elles ont été interrogées, qu'elles n'avaient pas l'intention de se faire vacciner. J'ose pas toucher le laser parce que j'ai peur que ça change tout encore, mais ce que vous pouvez voir, c'est que les femmes avaient plus souvent l'intention de ne pas se faire vacciner que les hommes, que du point de vue de l'âge, on avait les jeunes et surtout les 25-34 ans qui disaient plus souvent qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Tout ça, c'est des méthodes d'ajustement, donc c'est des effets spécifiques de chaque variable. On a un gradient selon le diplôme. Hein, de pas de diplôme, c'est... J'ose pas. Là je peux. Non, c'est, tout à l'heure ça a sauté quand j'ai fait ça. Vous voyez les diplômes là. Après, vous avez les D1, D2, D3, D4. Vous avez un gradient selon le niveau de revenu. Hein, les D1, c'est les 10% les plus pauvres de la population, et les D10, c'est les 10% les plus riches. Donc plus on était pauvre, moins on avait l'intention de se faire vacciner. Et puis vous avez aussi des réticences différentes selon le fait qu'on soit natif, c'est-à-dire Né en France de parents français, de nationalité française pour Ego et ses parents, les personnes dans les DOM qui étaient beaucoup plus réticentes à se faire vacciner, de même que les personnes appartenant à des minorités racisées par rapport à la population native. Et puis, un enjeu très important, mais Jérémy va revenir dessus, la confiance dans le gouvernement ou dans les scientifiques, qui était l'enjeu majeur, donc il y a une dimension fortement politique qui s'exprime à travers les réticences vaccinales, qui étaient moins à même de se faire vacciner. Donc vous voyez des positions sociales qui sont très liées au fait dans l'autre sens, des intentions de ne pas se faire vacciner très liées aux positions sociales. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, c'est, je vais vous l'expliquer, c'est très simple, mais ce qui est intéressant, c'est qui était réticent en novembre et qui s'est quand même fait vacciner après. D'accord ? Et ce que, en gros, c'est une certaine façon d'évaluer l'efficacité d'une campagne de prévention, d'une politique de prévention. Donc on a pris tous les gens qui, en partant du principe, enfin, on l'a étudié, hein, mais on a montré que les gens qui étaient très favorables au vaccin avant qu'il arrive se sont fait vacciner. Pas dans le même calendrier, vous allez le voir, mais là, on a regardé qui était réticent à la vaccination et qui s'est finalement fait vacciner. Et ce que vous voyez là, c'est que il y a un gradient très net selon la grosse bulle rouge au milieu, là. C'est un gradient très net selon le niveau de revenu, c'est-à-dire que les personnes qui étaient réfractaires et qui se sont fait quand même vacciner, eh ben, plus on était riche et réfractaire, plus on s'est fait vacciner. Quand on était pauvre et réfractaire, on a continué à pas se faire vacciner. Donc ça a touché, visiblement, dans les réfractaires, les personnes de milieux très aisés ont été plus touchées que les autres. Par rapport à le petit cercle en bas, le deuxième là, sous le gros, le petit sac vertical, enfin c'est pas un cercle, mais la forme ovale verticale, c'est les personnes selon leur position par rapport au parcours migratoire, puisque c'est l'information qu'on avait dans l'enquête EPICOV. Ben, on voit de manière assez intéressante que les personnes qui sont immigrées de première ou de deuxième génération non européenne, ces personnes-là se sont fait, elles sont restées, elles étaient réfractaires et elles se sont pas fait vacciner par rapport aux autres groupes sociaux. Donc il y a aussi là un nœud qui se joue. Ensuite, parmi les personnes qui sont devenues confiantes vis-à-vis logiquement elles se sont plus souvent fait vacciner. Et là, on a sur les scientifiques et sur le gouvernement. Mais le point important que je voulais, l'attention que je voulais attirer sur cette diapositive, c'était selon les variables sociales. Donc ça veut dire c'est indépendamment quand je dis que les personnes de faible revenu, les 10% les plus pauvres, se sont fait moins vacciner. C'est indépendamment, même si ça ne veut pas dire grand-chose sociologiquement, du niveau d'études, c'est indépendamment de leur âge, donc c'est vraiment marqué par rapport à cette caractéristique sociale. Donc en gros, les personnes qui sont restées à l'écart de la vaccination sont les personnes les plus pauvres et les personnes qui sont dans des minorités, qui appartiennent à des minorités racisées. Alors, là, c'est comment s'est développée la vaccination en France à partir de tout début de l'année de janvier 2021. Ce qui est intéressant, là, c'est par diplôme, et je l'ai mis par groupe d'âge. Ce qui est intéressant, c'est que ces jolies couleurs, vous voyez qu'à chaque fois, il y a un gradient très marqué, c'est-à-dire que les personnes les plus diplômées se sont fait vacciner plus vite et à tous les âges. Et même, elles ont commencé à se faire vacciner avant que l'ouverture de la vaccination ne les concerne. Et il y a déjà des différences. Là, vous voyez, là, voilà. Là, on est chez les 18-54 ans. Donc, la vaccination, à cette époque-là, elle ne leur était pas ouverte. Et vous voyez que, eh ben, quand même, les plus diplômés se faisaient déjà. Tout le monde, il y a toujours des gens qui se faisaient un peu vacciner avant, mais il y a des gens qui se faisaient vacciner avant que la campagne ne leur soit ouverte, et c'était beaucoup plus important dans les groupes les plus favorisés. C'est ce que Laure Pitty évoquait tout à l'heure quand elle parlait des personnes qui, dans les centres de Seine-Saint-Denis, elle disait on voyait les Parisiens qui venaient se faire vacciner dans les centres de Seine-Saint-Denis, voilà, qui connaissaient les réseaux, enfin qui avaient entendu l'information qu'il y avait des vaccinodromes en Seine-Saint-Denis parce que c'était une population particulièrement touchée, donc des gens qui n'avaient pas de raison légale entre guillemets de se faire vacciner, qui allaient se faire vacciner dans d'autres lieux. Là, vous avez la même chose par revenu, hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais vous voyez à quel point ces écarts selon le revenu à tous les groupes d'âge se manifestent de manière assez, assez spectaculaire en sociologie. Pour donner des cours, on se dit que c'est vraiment une belle courbe hein, pour montrer les effets de revenus sur la vaccination, et ce, à tous les âges. Ensuite, vous avez la vaccination, les taux de vaccination, c'est cumulé. Hein, chaque fois, c'est combien on... J'ai même pas expliqué comment ça se lisait, pardon. Mais là, par exemple, ça veut dire que le 30 juin, on avait 60% de personnes vaccinées ici, parmi les 18-54 ans. Et puis là, on est presque 90%. En tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une opposition très nette, sauf chez les personnes les plus âgées, mais où on voit quand même des différences, très nettes entre le groupe des personnes qui sont nées en France, de parents français, nationalité française, ou nées dans des pays d'Europe, versus les DOM, les habitants des DOM, les personnes qui sont de première ou deuxième génération appartenant à des minorités racisées. En gros, c'est l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Donc vous voyez cette opposition qui se construit dès le début et qui s'accentue au fil du temps, à tous les âges, et chez l'opposition est moins marquée, mais en même temps il y a aussi moins de monde chez les plus âgés. Donc on voit une distribution sociale très différente du recours à la vaccination. Et en gros, voilà, la conclusion, c'est un moindre recours à la vaccination chez les personnes en bas de l'espace social et chez les minorités racisées. Et la question qui nous est apparue après, mais finalement, ces personnes-là sont aussi les personnes qui sont le plus souvent confrontées à des discriminations. Donc, on a regardé on a introduit dans la dernière vague de l'enquête EPICOV, hein, puisqu'on pouvait changer le questionnaire un petit peu, on a introduit des questions sur les expériences de discrimination. Et on a trouvé des résultats qui confirment qui étaient plus antérieurs de... Alors, oula, maintenant, si vous avez mes courriers personnels, ça va pas du tout. Bon, il va partir tout seul. Je ne sais pas pourquoi ça. Bon. Donc c'est les expériences de discrimination dans les 5 ans, hein, en 2022. Et vous voyez que le fait d'avoir été confronté à une expérience de discrimination, ben alors, le fait que ce soit plus les femmes, c'est lié à tous les enjeux au moment des carrières. Hein. Vous avez, selon l'âge, selon le diplôme. Alors, selon le diplôme, c'est intéressant parce que les plus diplômés déclarent plus de discrimination que les moins diplômés. En fait, ce qu'ont montré des enquêtes, et notamment les travaux de l'INED, de l'équipe de Patrick Simon, Chris Beauchemin, Christelle Hamel, et j'en oublie un quatrième larron, mais c'est pas grave, c'est que finalement, et puis des travaux de sociologie des discriminations, c'est que c'est un peu comme les violences sexuelles, le fait d'être capable de reconnaître, d'avoir la conscience que ce qu'on est en train de vivre, ça relève de la discrimination, que c'est pas normal. Et ça, les personnes les plus diplômées sont plus à même de repérer par rapport à une situation d'objectif de discrimination, de la qualifier de discrimination, tandis que d'autres personnes celles qui sont même plus souvent confrontées à des discriminations, ça fait presque partie de leur quotidien et c'est plus déclaré comme une discrimination. Vous avez quelque chose de très important aussi, vous voyez un gradient très important selon le niveau de revenu, selon le lieu de résidence aussi, et puis toujours ces trois groupes-là qui se distinguent sociologiquement en matière d'expérience de discrimination. Ce qu'il faut retenir là, c'est que le fait d'avoir un niveau de revenu très faible, le fait d'appartenir à une minorité racisée, sont les mêmes variables qu'on a vues liées au non-recours à la vaccination. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de comprendre un peu mieux les liens entre les deux enjeux. Alors, pour vous épargner des tableaux statistiques compliqués, quelles sont les caractéristiques sociales qui sont liées à l'absence de vaccination? Ça concerne finalement, à la fin 2022, ça concerne que 7% de la population, mais ça nous a paru intéressant de se focaliser sur ce groupe-là, parce que souvent dans les enquêtes statistiques, on a tendance à se faire absorber par la masse, et là on s'est dit, on va aller regarder ce qui se passe chez ce 7% de la population qui ne s'est toujours pas fait vacciner en 2022, alors que je vous le rappelle, le vaccin était gratuit et que les conditions d'accès à la vaccination étaient quand même très facilitées sur l'ensemble du territoire, en tout cas, sauf si Jérémy dit le contraire tout à l'heure. En tout cas, les personnes qui se faisaient... Non, mais si je cache ça, vous le voyez quand même, c'est terrible ça. J'ose pas l'enlever, pardon. Bon, merci. C'est une catastrophe, cette présentation... En tout cas, les personnes qui se font pas vaccinés, hein, en fin 2022, qui sont toujours pas vaccinés, si on peut dire, c'est les 18-24 ans et les 25 ans et plus. Donc il y a vraiment un effet d'âge. Les hommes sont plus souvent pas vaccinés, alors que je vous avais dit, souvenez-vous, que les femmes avaient été plus réticentes à la vaccination. Et en fait, dans les analyses, on voit que si les femmes sont plus réticentes à la vaccination, finalement, elles se sont fait rappeler à l'ordre de genre pendant la campagne, vis-à-vis en particulier des personnes âgées dont elles assurent la grande majorité du care. Et donc, elles étaient plus réticentes parce qu'on ignorait un peu tout du vaccin. Souvenez-vous, tous les débats sur l'ARN messager et tout ce qui. Et elles étaient plus sensibles aux effets sur le corps que ça pouvait avoir que les hommes ne l'étaient. Mais quand les vaccins ont été mis en place et qu'on a vu que tout marchait très bien, elles ont rempli leur rôle social de prise en charge du care dans la famille et se sont fait plus souvent vacciner. Donc le niveau de vie, je vous l'ai montré, c'est très lié au fait de ne pas se faire vacciner. Les diplômes les plus bas se font moins vacciner. Les minorités racisées et les drômes beaucoup moins vaccinés. Et puis les habitants des petites agglomérations se sont fait moins vacciner que dans les grandes villes. Et le lien avec la vaccination. Donc ça, 6% des personnes qui n'ont jamais vécu d'expérience de discrimination, 6% ne sont pas vaccinées. D'accord ? En moyenne, c'est 7. Hein. Quand elles rapportent avoir eu parfois des expériences de discrimination, elles sont 11,2% à ne pas se faire vacciner et souvent 18,2%. Les chiffres en rouge à côté, c'est ce qu'on appelle des autres ratios, c'est des facteurs multiplicatifs qui tiennent compte du fait que de toutes les autres caractéristiques. Pour en fait, ça veut dire que indépendamment du sexe, du niveau d'études, de l'âge, de là où vous habitez, de tout ce que vous voulez, enfin pas tout ce que vous voulez, tout ce qu'on a dans l'enquête, le fait d'avoir été confronté, de dire avoir été confronté parfois à des discriminations, ça multiplie par 1,78, la probabilité de ne pas être vacciné. Et si vous déclarez que c'est souvent, ça multiplie par 2,43%, et c'est indépendamment des autres facteurs. Donc il y a un effet spécifique d'avoir été confronté à des expériences de discrimination. Alors la question qu'on pose tout de suite, d'accord, dire qu'on a été confronté à des expériences de discrimination, ça ne veut pas dire qu'on a été discriminé. Sauf que des travaux très approfondis, et notamment de l'INED, et on l'a montré aussi dans une enquête que j'avais faite chez le Défenseur des droits, que les personnes qui déclarent... Il y a une très grande cohérence entre la déclaration d'avoir été discriminée dans une enquête et toutes les données qu'on a par d'autres systèmes d'enquête, que ce soit les déclarations qui sont adressées aux défenseurs des droits, que ce soit des enquêtes spécifiques qui portent sur des populations qui ont eu des recours à différents acteurs. Il y a une très grande cohérence entre ce qu'on trouve dans les personnes qui déclarent, les caractéristiques des personnes qui déclarent des discriminations et les personnes qui ont effectivement vécu des discriminations. Et ça, c'est toujours un peu, je pense, à cet argument, parce qu'il a été opposé en ma présence par un des plus grands personnages de l'État au défenseur des droits, en lui disant « oui, mais enfin, les discriminations, c'est ce qu'on dit, quoi ». Non, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on vit. Alors, si maintenant, on regarde non plus selon la fréquence, mais où ont lieu ces discriminations, selon le lieu ou selon l'espace où ont eu lieu ces discriminations. Quand les discriminations ont eu lieu dans l'emploi, on voit que l'augmentation, elle est de 1,18, elle est significative, mais elle augmente un peu, mais de 1,18. Quand elles ont lieu dans le logement, il n'y a pas d'effet. Quand les gens qui rapportent avoir été confrontés à une discrimination dans l'accès au logement, il n'y a pas d'effet sur le fait de ne pas se faire vacciner. Quand on a été discriminé dans le domaine de la santé, là, il y a un effet très important, puisque c'est trois fois plus on est trois fois plus à même de ne pas être vacciné quand on a été discriminé dans le domaine de la santé. Et quand on a été discriminé dans les services publics, dans les relations avec les services publics, on a, c'est 6,8 contre 16,4%, vous voyez. Donc il y a un effet de la fréquence de ces discriminations, de l'intensité des expériences de discrimination, et il y a un effet de l'espace dans lequel ces discriminations ont eu lieu, et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et le résultat quand même très intéressant qu'on a, c'est que ces expériences de discrimination, elles jouent sur la vaccination pour tout le monde, et pas que pour les personnes racisées. C'est-à-dire les personnes non, et ça c'est un résultat qui est vraiment intéressant, et qui interroge sociologiquement, parce que dans la littérature, tout ce qui a été vu, c'est les discriminations contre les personnes racisées. Là, ce qu'on a montré, c'est que les discriminations contre les personnes racisées, l'effet d'avoir été discriminé, joue dans tous les groupes sociaux, et pas que chez les personnes racisées. Il se trouve par ailleurs que les personnes racisées sont plus souvent confrontées à des discriminations. Donc l'effet des discriminations sur le non-recours à la vaccination, il est statistiquement plus massif pour les personnes racisées parce qu'elles sont plus nombreuses à subir des discriminations. Mais pour autant, sociologiquement, le mécanisme, le processus qui lie l'expérience de discrimination à la non-vaccination, on le retrouve dans tous les groupes sociaux et à tous les âges. Donc, ce n'est pas spécifique aux populations qui subissent des discriminations liées à leur position raciale. Alors, là, je vais vous prendre trois exemples rapidement avant de conclure pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc, ils sont tirés d'un travail de post-doctorat que j'ai encadré avec Alexis Spire. Donc, c'est Raphaël Chalier qui a fait un travail tout à fait intéressant qui a été publié dans la revue Société Contemporaine en 2024. Donc j'ai repris quelques exemples de ces entretiens. Vous avez l'exemple d'Aïssatou qui a 20 ans, qui travaille à mi-temps comme vendeuse dans un commerce avec des parents qui viennent du Mali, et elle vit chez sa mère. Et alors l'enquêteur lui dit: c'était la première fois que vous sentiez de la part des institutions une pression suite au non-vaccin, hein, parce que c'est un bout d'entretien, donc elle parlait du non-vaccin. Et elle dit non, puisque je me dis que, étant d'un milieu populaire, on est déjà un peu stigmatisé, on vit avec ça tous les jours. Aussi, étant donné que je porte le foulard, donc ce sentiment, tu n'es pas comme tout le monde, tu n'es pas la citoyenne parfaite, mais pour moi, je suis normale, on est normaux, quoi. On n'est pas des banlieusards, des Français inférieurs. Je pense que la France a un peu du mal à accepter la différence de culture, de religion, d'opinion. Ça me fait penser à un de mes professeurs au lycée qui nous donnait un peu l'image de « pour être français, c'est ça, ça, ça ». En tout cas, pour les vaccins, j'ai rien ressenti de particulier, mais elle n'a pas eu recours à la vaccination, et que cette défiance, quand on voit dans tout son entretien, vis-à-vis des autorités, en fait, repose sur l'expérience du racisme qui est préexistante à la crise sanitaire et qui a été renforcée pendant les confinements. Vous savez que pendant les confinements, les groupes, certains groupes, et en particulier les jeunes racisés, ont été beaucoup plus souvent contrôlés que les autres personnes. Et ce qui est intéressant ici dans cet entretien, c'est de voir à quel point finalement c'est l'expérience de la défiance dans le gouvernement. Donc vous voyez, le processus est assez complexe. Elle a été très souvent confrontée à des discriminations. Il y a une défiance dans le gouvernement et qui fait que tout le discours qui vient du gouvernement de « faites-vous vacciner », l'implication très forte, qui est quand même une des caractéristiques de cette campagne vaccinale, c'est l'implication très forte des politiques dans la campagne de vaccination. On a vu que c'était un des événements statistiquement très importants. L'exemple de cette jeune femme montre à quel point le processus est compliqué pour rendre compte d'une réticence forte à la vaccination. Voilà. Là, c'est l'exemple de Yacine, qui est un chauffeur-livreur d'origine algérienne et qui a continué à exercer son métier pendant la crise. Et lui, il se déclare franco contre le vaccin Covid et contre le pass sanitaire. Oui, moi, je suis contre le pass parce que franchement, pour moi, t'as pas de pass sanitaire, tu peux rien faire, tu peux pas aller voir le médecin, tu peux pas aller prendre un café. C'est un peu comme du racisme. Donc, vous voyez cette convocation de l'argument du racisme qui revient très vite. Et donc, l'interprétation qu'en fait Raphaël Chalier, c'est que le parallèle que propose Yacine entre le pass sanitaire et le racisme se comprend mieux, encore une fois, là, en le mettant en relation avec des expériences antérieures. Et il évoque spontanément la situation de son frère qui souffre d'un handicap, mais qui n'aurait pas, selon Yacine, pu bénéficier des aides auxquelles il aurait pu prétendre. Il ne peut plus travailler, il touche même pas d'aide. La Cotorep, donc la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, l'a recalé deux fois, comme s'il n'était pas assez malade, il a une sclérose en plaques, ils n'aident pas tout le monde, il faut se justifier 15 fois, les infrastructures, ils ne sont pas très compréhensifs. Donc vous voyez, cette expérience qu'il a dans un tout autre domaine que le Covid contribue encore une fois à alimenter une défiance vis-à-vis des services publics et par voie de conséquence vis-à-vis de la vaccination. Le dernier exemple, c'est Suzanne, qui tenait il y a quelques années un magasin de vêtements et qui aujourd'hui s'occupe d'un gîte rural, et son mari est ouvrier. Et elle a un de ses enfants qui est décédé à la naissance, et c'est un drame qu'elle attribue à la négligence des personnels hospitaliers. Et elle dit: Si ça fait 6 ans que je vis dans un camping-car, c'est parce que l'État ne nous aide pas. J'ai été commerçante, on nous a laissé crever comme de la merde. Internet a gagné contre nous, on était plus compétitifs et nous, on avait un loyer. L'EDF, les impôts, le RSI, on coulait déjà sous les charges d'un commerçant, elle est énorme, la charge, pardon. On pouvait plus faire de commandes, on se versait pas de salaire, donc on a arrêté. C'est pas à l'État de me dire, vous recevrez que 2 personnes chez vous, c'est à moi de voir si je suis malade ou pas, si les gens, ils arrivent, ils ont un rhume et ils me disent c'est pas le Covid, je les crois. Et c'est l'instauration de cette peur qui a fait que les gens se sont dit, ils vont nous obliger, mais vu les effets indésirables, ils pourront jamais instaurer le vaccin en obligation. Voilà. Et, l'interprétation de Raphaël Chalier de dire les réticences vaccinales sont d'autant plus fortes quand elles viennent redoubler des valeurs professionnelles déjà hostiles à l'État. Et ce qui est intéressant pour conclure, c'est que finalement, la très grande majorité de la population s'est fait vacciner contre le Covid. Et que cette minorité qu'on vient de regarder, il faut ajouter aussi toutes les personnes qui ne font pas partie de ces enquêtes statistiques et il faut toujours avoir un signe d'alerte quand on parle de travaux de recherche en santé publique qui portent sur la population dite représentative, dite générale. En l'occurrence, on n'a pas les personnes sans domicile fixe dans ce type d'enquête. On n'a pas les personnes sans papier parce qu'elles n'étaient pas dans la base de sondage. Mais on sait par toute une série de travaux qu'elles connaissent des difficultés majeures d'accès au système de soins. Donc il faut toujours avoir des warnings qu'on ne parle pas de l'ensemble de la population et que tout ce qui se situe à la marge de la population majoritaire, c'est, comme le disaient Françoise Héritier et Christian Baudelot, c'est extrêmement riche pour comprendre ce qui se passe dans la population dans son ensemble. Et les personnes à la marge connaissent évidemment beaucoup plus de problèmes de santé. Donc en tout cas, dans les résultats intéressants, c'est que le profil social des personnes qui ne sont pas vaccinées à l'automne 2022, c'est le même que celui de la vague précédente de l'enquête Epikov en 2021. Donc le profil social n'a pas changé. Et ça suggère que c'est pas, ce qu'on observe fin 2022, c'est pas un retard d'accès à la vaccination. C'est pas, on se dit pas, si on avait fait une enquête un an après, on aurait eu plus de vaccinations. Mais c'est plutôt un non-recours au vaccin qui s'est maintenu dans le temps et que ce non-recours s'explique par des expériences vécues de discrimination qui renvoient à différentes sphères de la vie sociale, emploi, santé, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont les discriminations qui émanent des institutions sociales ou étatiques qui ont le plus de répercussions sur la vaccination. Vous avez vu, c'est la santé et les services publics, c'est les deux qui font le plus qui ont le plus de répercussions sur la vaccination. Et les personnes, ce qu'on appelait à l'époque de minorités visibles, puisqu'on n'avait pas la couleur de peau dans l'enquête Epikov, sont particulièrement concernées par des discriminations qui émanent d'acteurs institutionnels et qui comptent aussi parmi les groupes les moins vaccinés. Donc, et ce que je disais à l'instant, c'est qu'un résultat très intéressant, ce lien entre expérience de discrimination et non-vaccination n'est pas spécifique aux personnes qui appartiennent à des minorités racisées et on les retrouve dans tous les groupes sociaux. Et donc, chez les personnes non vaccinées d'origine populaire ou racisée, les refus de vaccins prolongent souvent des vexations qui sont ressenties au contact des institutions. Et ce que montre l'analyse qualitative de Raphaël Chalier et d'autres articles à l'international, c'est que les personnes racisées évoquent surtout l'expérience de discrimination par des agents publics et que les non-vaccinés de milieux populaires qui ne sont pas racisés mais blancs décrivent un État prompt à contraindre mais défaillant lorsqu'on sollicite son appui. Donc il y a une vraie défiance, encore une fois, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on a souvent dit, à attribuer directement à tout ce qu'on la défiance vis-à-vis du vaccin, des scientifiques, etc. Mais c'est des phénomènes qui sont ancrés dans l'expérience des gens bien avant l'arrivée du Covid et du vaccin. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que ces inégalités dans le recours aux soins, pourtant gratuits, il faut le rappeler, et quand même très accessible, ne renvoie pas seulement à des croyances ou à des différences culturelles, mais s'explique aussi, pas seulement, mais aussi par des pratiques discriminatoires qui ont contribué à modifier la vision du monde et de celles et ceux qui en ont été victimes. Voilà. Et ce que je disais sous une autre forme, que ça rappelle l'importance des expériences passées dans le rapport au corps et à la médecine, et que vraiment, l'idée, c'est que ce sentiment d'exclusion sociale est antagonique avec l'idée de s'inscrire dans une démarche de prévention pour soi et pour les autres. Et donc, ce type de résultat, couplé avec ceux que va vous présenter Jérémy dans un instant, ça interroge les politiques de prévention qui se sont fondées, rappelez-vous, que sur une logique de raisonnement de type épidémiologique. Alors évidemment qu'il faut en tenir compte, hein, les personnes âgées, à 85 ans, on est beaucoup plus fragile que quand on a 20 ans. Mais pour autant, donc, la logique de penser, une espèce de confusion entre les personnes qui doivent être ciblées en premier pour des raisons de fragilité physiologique et de comorbidité, et la logique de construction d'une politique vaccinale qui a fait fi des inégalités sociales de rapport à la vaccination qui s'appuie sur des expériences vécues en amont de la crise sanitaire. Alors bien sûr que la crise sanitaire, et on va le voir tout à l'heure, a recomposé, réactivé certaines logiques de défiance, notamment dans le cadre d'un vaccin très particulier comme un vaccin basé sur l'ARN messager. Mais pour autant, c'est encore une fois une compréhension qui nécessite de réinscrire dans l'histoire, au sens large du terme, les pratiques et les représentations actuelles par rapport à un vaccin, et que on aurait attendu. Alors vous allez dire la critique est facile, mais il y a des gens hein, qui l'ont signalé aux autorités très vite. On a présenté nous ces résultats aux conseillers du président de la République très vite. Il y a eu des courriers, des lettres qui ont été adressées par des chercheurs, et je pense en particulier à France Lair, mais toute une équipe autour d'elle qui se sont manifestées pour dire n'oubliez pas tout ce qu'on a appris avec l'épidémie de VIH, quoi. N'oubliez pas, associer les personnes concernées, attention aux enjeux de rejet, etc., etc., etc. Enfin voilà. Donc c'est facile de critiquer les politiques, mais en même temps, c'est nécessaire et ça fait partie de notre rôle de scientifique que de mettre au jour un certain nombre de résultats qui conduisent à dire, dès qu'on et on a travaillé vraiment dans l'urgence, de dire attention, vous ne tenez pas compte de toutes ces dimensions qui sont extrêmement importantes pour comprendre pourquoi les gens sont réticents à la vaccination. Et vous ne pouvez pas imposer cette vision de définition objectiviste du risque. Le risque, c'est ça, et voilà comment vous devez vous positionner. Non, il faut essayer de comprendre comment les gens se positionnent et construisent leur rapport au risque en fonction de toutes leurs expériences passées et contemporaines. Et l'enjeu n'est pas sans importance, bien évidemment d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue des politiques de prévention, au regard des statistiques que j'ai rappelées la dernière fois sur les différences de morbidité et de mortalité selon les caractéristiques sociales, et notamment cette surmortalité extrêmement importante des personnes qui appartiennent à des minorités racisées, dont une partie de l'histoire s'explique par le rapport à la vaccination. Alors que, je terminerai là-dessus, je vous avais montré la semaine dernière que ces mêmes personnes étaient beaucoup plus enclines, autant voire plus enclines, à utiliser le gel, à porter des masques, etc. Donc voilà, c'est pas des groupes qui veulent pas de parler de prévention, qui n'ont rien à faire de la santé. Non, on voit, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on prend le gel, les distances qu'on ne pouvait pas respecter dans certains contextes comme eux, notamment, enfin, pour celles et ceux qui ont pris le RERB en période de Covid, un mètre, bonne blague. En tout cas, voilà, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que ces groupes-là, ils étaient enclins à se protéger autant, voire plus que les autres. Mais quand on parle de vaccins, vous voyez que les choses se retournent. Et donc, du coup, ça montre la complexité de décomposer les différentes pratiques de prévention et de les interroger sociologiquement. Voilà, ça donne une autre compréhension de la réalité sociale. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention. On fait une petite pause et puis ensuite, on écoute Jérémy.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.